France Inter.
France Inter. Le 18-20. Claire Servageant.
On va parler d'argent ce soir au téléphone sonne. À l'occasion de la campagne de déclaration des revenus de 2023 qui a débuté il y a quelques jours, on va s'interroger sur notre rapport à l'impôt. Question d'autant plus cruciale que l'exécutif a décidé de ne pas rouvrir le débat budgétaire au Parlement malgré un déficit bien plus important que prévu. Au sein du gouvernement et à l'Élysée, la ligne est toujours la même. Poursuivre les baisses d'impôts pour les ménages et tailler dans les dépenses alors que même dans la majorité, certains s'interrogent sur la nécessité de taxer les plus riches. Alors ce soir, on va se pencher sur ce que représente l'impôt, sur le revenu par rapport aux autres taxes, prélèvements, cotisations. On va voir ce qu'il en est du niveau de consentement à l'impôt, du sentiment persistant d'injustice fiscale qui peut exister chez certains contribuables. Avec nous pour en parler ce soir et pour répondre à vos questions, trois invités que je vous présente. Dans ce studio, bonsoir Pierre Boyer.
Bonsoir.
Vous êtes professeur à l'École Polytechnique, directeur adjoint de l'Institut des politiques publiques, membre du Conseil des prélèvements obligatoires. Vous venez de publier aux presses universitaires de France « Peut-on être heureux de payer des impôts ?» C'est un titre qui interpelle, je vous le dis tout de suite. À distance, Anne Guyot-Velk, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire générale du syndicat Solidaire Finances Publiques, principal syndicat des agents des finances publiques. À distance également, Clément Carbonnier, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur d'économie à Paris 8, co-directeur du LIEP, le laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques de Sciences Po, où vous vous occupez des politiques socio-fiscales. Merci à tous les trois d'être là ce soir pour répondre aux questions des auditeurs de France Inter. À vous qui êtes de l'autre côté du poste, n'hésitez pas à nous appeler.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Pour commencer, nous prenons l'appel de Laurent qui appelle l'Île-de-France. C'est bien ça, Laurent ?
Oui, bonsoir France Inter, merci d'accueillir mes propos. Du coup, dans un premier temps, j'avais une première observation. Alors moi, je dirais pas que je suis forcément heureux de payer des impôts, mais par contre, j'en suis fier. J'ai pas toujours eu les revenus qui me permettaient d'être, entre guillemets, éligible, mettre des gros guillemets, hein, à un impôt. Mais depuis que j'en paye, moi, je suis fier de participer à l'effort national, entre guillemets, aux hôpitaux, aux écoles, à la justice, aux forces de l'ordre, à l'armée même. Et du coup, je comprends pas parfois qu'on y ait des gens qui expriment un ras-le-bol fiscal ou qui disent qu'on paye trop d'impôts. Parce que je trouve que paradoxalement, on a beaucoup pour une charge d'impôt qui est relativement faible. Même si c'est fastidieux, c'est très difficile d'être heureux de payer des impôts, c'est parfois difficile, et parfois, oui, il y a une question d'injustice. Et du coup, ça amène ma question. Est-ce que on pourrait pas parler de séparatisme pour tous les gens qui utilisent de leur influence, de leur réseau, de leur privilège, ou simplement d'un avocat fiscaliste pour utiliser tous les moyens d'optimisation fiscale pour échapper à cette charge d'impôt? Voilà, merci.
Merci beaucoup Laurent pour cette double intervention. On va revenir sur cette question du séparatisme dans un deuxième temps, mais je voudrais d'abord que nos invités réagissent à ce que vous disiez au début de votre intervention. Je ne suis pas forcément heureux, mais je suis fier de payer des impôts. Pierre Boyer, on va commencer avec vous puisque c'est le titre de votre livre. Dans votre livre, vous faites état d'un certain nombre de faits par rapport à ça. Il est représentatif des Français, d'après vous, Laurent ?
Alors d'abord, merci pour cette question. Donc effectivement, dans ce que dit Laurent, il y a plusieurs choses. Il y a une première chose qui est, bon, comme vous l'avez dit, la question « peut-on être heureux de payer des impôts ?» Ça, c'est plutôt une provocation. Mais plus globalement, ça interroge une première chose, c'est le lien entre les citoyens et l'impôt. Et par rapport à ça, je pense qu'un premier aspect, c'est de dire que cette relation, elle est complexe. Il y a plusieurs éléments. Donc, dans ce qu'a mentionné notre auditeur, il y a la notion de justice, mais il y a aussi la notion de contrepartie. Qu'est-ce qu'on a pour nos impôts? Et donc, en fait, quand on regarde dans la globalité si on est heureux de payer des impôts, en fait, on a une relation qui est positive, c'est-à-dire les pays dans lesquels on a des taux de pression fiscale les plus élevés sont ceux qui sont plus heureux. Alors attention, ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'il faut juste augmenter les impôts pour atteindre le bonheur, mais ça montre que une augmentation des impôts est liée à des facteurs qui vont permettre d'augmenter la satisfaction.
Les pays en question que vous citez, ce sont des pays d'Europe du Nord, de Scandinavie.
Exactement. Donc les pays qui ont les taux de pression fiscale les plus élevés, mais aussi les niveaux de satisfaction, sont ceux de pays scandinaves.
Voilà, et je vais citer un chiffre qui est dans votre livre. Et là, je précise aussi que les chiffres que vous donnez sont ceux du baromètre des prélèvements obligatoires. Les Français estiment à 80% que payer ses impôts et ses cotisations sociales est un acte citoyen. Et c'est un petit peu ce que nous disait Laurent. On reviendra dans un instant sur la question du séparatisme, mais je voudrais que nos autres invités réagissent à ce que disait Laurent. Anne Guyot-Welk, du syndicat Solidaire Finances Publiques, une réaction aux propos de Laurent ?
Oui, une réaction, c'est qu'effectivement le lien entre le rôle et la place de l'impôt et la contrepartie, ça permet d'avoir ce consentement qui n'est pas remis en cause. La difficulté aujourd'hui, c'est que le sentiment d'injustice fiscale qui peut parfois s'exprimer parce qu'il y a de fortes inégalités et parce que l'impôt ne joue plus aujourd'hui le rôle de redistribution des richesses. Les services de public qui sont financés en partie par l'impôt de façon générale sont mal en point, pour pas dire plus. Donc parfois ce sentiment d'injustice, il est légitime de la part de la population parce que la contrepartie de l'impôt qu'il paye, la contrepartie n'est pas toujours une réalité sur leur territoire. Donc on peut entendre le sentiment d'injustice fiscale que certains contribuables expriment. Après, tout ceci peut se corriger avec une nouvelle politique fiscale. Et c'est là l'enjeu, je pense, dans la période, pour que ce consentement retrouve tout son sens entre déclarer ses impôts, payer une contribution qui soit en fonction de sa capacité et la contrepartie financer de l'action publique à travers des services publics notamment.
Alors on y reviendra. Une réaction de votre côté à vous, Clément Carbonnier, par rapport à ce que nous disait Laurent, je ne suis pas forcément heureux, mais je suis fier de payer des impôts.
Oui, moi ce que ça m'évoque, c'est alors il y a la fierté ou alors aussi une forme, ce qui est peut-être un peu similaire, de légitimité à l'intérieur de la société du fait de contribuer aux dépenses collectives. Et juste sur ce point-là, il y a quelque chose qui est important, c'est que il y a une grande, alors je sais pas si on en reparlera tout à l'heure, mais il y a beaucoup d'impôts différents, il y en a qui sont plus visibles et donc sur cette question de légitimité, il y a aussi le fait que on pense souvent à l'impôt qui s'appelle impôt sur le revenu, quand on parle d'impôt, et qui est une toute petite partie de la contribution, et qui est une partie qui n'est pas payée par tout le monde. Et donc ça délégitime d'une certaine manière certaines personnes, les personnes qui ne payent pas l'impôt sur le revenu, alors que ces personnes-là contribuent, et même contribuent grandement, aux dépenses publiques globales à travers d'autres formes d'impôts, y compris d'autres formes d'impôts sur le revenu.
Alors, tout le monde ne paye pas l'impôt sur le revenu, vous le dites, Clément Carbonnier. Les chiffres donnés par le site du gouvernement, impots.gouv.fr, la Direction Générale des Finances Publiques, c'est quoi ? Il y a un peu moins d'un contribuable sur deux qui paye l'impôt sur le revenu, effectivement ?
Oui, alors j'ai pas les chiffres, les derniers chiffres, mais effectivement c'est moins d'un sur deux qui paye donc cette partie progressive de l'impôt sur le revenu, mais comme je disais qui représente, alors c'est peut-être les chiffres, j'espère pas perdre les auditeurs, mais qui représente 7% des prélèvements obligatoires. Donc c'est vraiment une toute petite partie et qui n'est même pas la majeure partie des impôts sur le revenu, puisque la majeure partie des impôts sur le revenu c'est la CSG qui représente des recettes et donc des moyens de financement des actions de l'État plus importantes. Et donc cette CSG qui, elle, est payée par un beaucoup plus grand nombre de personnes, c'est-à-dire quasiment tout le monde. En fait, tous les gens qui ont des revenus payent la CSG.
Mais c'est vrai que quand on parle de la déclaration de revenus, et puisque c'est la question du moment, on se rend compte que certains, même avec d'importants revenus, parviennent à payer beaucoup moins. Et ça rejoint la deuxième partie de la question de Laurent, qui faisait état d'une même qui parlait de séparatisme pour ceux qui arrivent grâce à des conseillers fiscaux à payer moins. Pierre Boyer, ça c'est une réalité aussi.
Alors peut-être sur deux choses par rapport à ça. Le premier point peut-être sur la notion d'injustice. Donc c'est vrai que dans le baromètre de prélèvement obligatoire, nous avons bien observé que les gens qui trouvent que le système est juste sont associés à plus de consentement à l'impôt que ceux qui pensent que c'est injuste. Par contre, les gens qui pensent que c'est injuste, ça peut être pour deux raisons. Ça peut être parce qu'ils trouvent que le système n'est pas assez redistributif, ou ça peut être parce qu'ils trouvent que le système est trop redistributif. Et donc là, on voit bien qu'il y a aussi un conflit de valeurs entre des citoyens qui vont penser différemment le niveau de justice de notre système. Sur la question de l'optimisation fiscale, il y a peut-être plusieurs choses à dire. La première, c'est effectivement, il y a des citoyens avec le même niveau de revenu qui ne payent pas du tout le même niveau d'impôt sur revenu, parce qu'ils ont une situation familiale différente, parce qu'ils ont des sources de revenus différentes, et parce qu'ils peuvent aussi utiliser de l'optimisation fiscale. Et ce qui est intéressant par rapport à ce point, c'est qu'il y a certaines niches fiscales qui ne sont pas du tout remises en cause. On ne pense pas à remettre en cause les avantages fiscaux pour les familles qui ont des personnes handicapées à domicile ou pour la garde d'enfants. Et il y en a d'autres qui sont peut-être un peu plus critiquées, et c'est peut-être ce que notre auditeur avait en tête.
Sur le mot de séparatisme, Anne Guyouvelque du syndicat Solidaire Finances Publiques, vous aviez peut-être envie de réagir ?
Oui, la question de la fraude et de l'optimisation fiscale, y compris et notamment à l'impôt sur revenu. Bah effectivement, on constate que par exemple dans les 18 millions de personnes qui sont non imposables, elles ne sont pas non imposables toutes pour les mêmes raisons en fait. Il y a des non imposables parce qu'ils n'ont pas assez de revenus pour l'être, puis il y a des non imposables parce que il y a des dispositifs qui leur permettent de réduire leur base taxable. Et comme le disait précédemment, la question de comment aujourd'hui est construit l'impôt et qui favorise-t-il. Or, aujourd'hui, l'impôt sur le revenu, déjà dans sa construction, on n'est plus que sur 5 tranches d'impôt. On a connu en 1983 avoir 14 tranches d'impôt, ce qui permettait d'avoir plus de progressivité. Et la question des dispositifs dérogatoires, ou qu'on appelle plus communément les niches fiscales, elles sont et je rejoins l'intervenant précédent, c'est que elles ne doivent pas toutes être remises en cause, mais certaines oui, puisqu'elles favorisent les plus riches. Et c'est là aujourd'hui où ce sentiment de on va dire de faire cohésion ensemble peut parfois être mis en cause. Donc un impôt, il a toujours une utilité, et il est toujours juste à partir du moment où sa construction l'est et que la redistribution est effective.
On repart au standard pour une question pratique cette fois-ci. Bonsoir Sophie.
Bonsoir.
Vous êtes
tout
dans le Pas-de-Calais et vous avez une question pratique.
Ah oui, j'ai une question pratique, mais je voulais juste faire une parenthèse en disant que quand on reçoit des revenus suffisants, je trouve ça tout à fait normal de contribuer aux dépenses nationales. Voilà, ça, je trouve ça normal. Et sinon, ben moi, je fais ma déclaration sous forme papier. Je l'ai toujours pas reçue, ma déclaration sous forme papier, donc je m'en inquiète. Et pour information, si je fais cette déclaration sous forme papier, c'est que ça me permet mon autonomie.
Merci Sophie pour cette question. Anne Guyouvelque, que vous qui travaillez aux impôts pour le coup dans les services des finances publiques. Beaucoup oui, se fait maintenant sur Internet, mais ceux qui veulent faire sur papier, alors comment ça se passe? Ils vont recevoir ou pas?
Normalement, ils devraient avoir reçu. Donc, la distribution par la poste a été lancée depuis quelques semaines maintenant. Donc, à surveiller la boîte aux lettres. Je vais juste revenir sur les personnes qui souhaitent continuer à déclarer papier peuvent encore le faire. Et nous, on dénonce notamment la question de la dématérialisation qui devient outrancière pour nous, et notamment pour les populations les plus fragiles. Alors, les populations les plus fragiles, ça ne veut pas dire socialement les plus fragiles, mais qui ont moins de facilité avec l'outil Internet ou qui n'ont pas Internet, hein, parce que ça peut exister encore dans la population. Et cette dématérialisation, elle ne sert pas, en fait, elle ne contribue pas pour une grande... Alors certes, une minorité, il y a à peu près 15%, je crois, le rapporteur des défenseurs des droits disait qu'il y avait 15% de la population qui connaissait ce qu'on appelle l'électronisme, ce qui représente une part importante. Et cette question de tout faire par Internet interroge sur l'accessibilité aux services publics.
Bien sûr.
Et on sent bien qu'aujourd'hui, on pousse, et il y a la nouveauté aujourd'hui, notamment de l'application mobile impôt.gouv, qui pousse pour avoir une dématérialisation de plus en plus prégnante, voire très conséquente parfois.
Voilà,
mais pour nous, la déclaration doit rester sur les deux axes, à la fois dématérialisée pour celles et ceux qui le souhaitent, mais aussi en papier.
On va partir retrouver Sylvie cette fois. Bonsoir Sylvie.
Oui, bonsoir. Bonsoir à
tous. On vous écoute.
Et merci pour cette émission. Alors moi, je ne suis pas contre payer des impôts directs ou indirects. Par contre, je m'interroge beaucoup sur ce qui est fait avec ces impôts. Parce que quand on voit les services publics se dégrader, donc que ce soit l'éducation, l'hôpital, la police, etc., je me demande si, en fait, une grande partie ne va pas dans l'administration pure. Et j'aimerais bien avoir des détails, parce que je pense que dans toutes ces administrations, on demande de plus en plus de tableaux, surtout la rentabilité, etc. Et quid aussi du millefeuille administratif, hein, il devait y avoir certaines choses de faites. Des conseillers aussi qui secondent des fonctionnaires et des fonctionnaires qu'on multiplie. Je le sais parce que j'ai travaillé donc dans ce milieu-là. Et puis, pour moi, l'État, les petites mesurettes, c'est plutôt le service public et tout ce qui est régalien. Mmh. Voilà, mais sinon, je ne suis pas contre payer des impôts, bien sûr.
Pas contre, mais à condition de savoir où ça va. Clément Carbonnier, à quoi servent nos impôts? Ça, c'est une, c'est une vraie question. Hein. D'ailleurs, Gabriel Attal avait lancé une opération l'année dernière, au moment de la déclaration de revenus, en avoir pour mes impôts. Alors, il y avait toute une liste de choses avec le coût d'un certain nombre de services. Comment on fait pour savoir à quoi servent nos impôts?
Alors, il y a des publications, alors qui sont pas forcément simples à lire, mais qui sont au moment
quand on veut comprendre un truc simple, justement,
votés. Alors, la majeure partie, c'est les prestations sociales. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que on a parlé de prélèvements obligatoires et pas uniquement d'impôts, parce que on a beaucoup d'organismes différents qui peuvent faire des dépenses publiques, hein, la sécurité sociale, l'État, les collectivités territoriales, et on a des modes de financement qui au départ étaient un peu séparés pour chacune. Chacune avait son moyen de financement, donc pour les collectivités locales et l'État, les impôts, pour la sécurité sociale, des cotisations, hein, comme des cotisations d'assurance. Et puis, alors c'est vrai que ça a beaucoup changé, et maintenant il y a plus de financements, disons, transversaux. Si on regarde les dépenses, la majeure partie, c'est les dépenses de prestations sociales, donc majoritairement la retraite, hein, les pensions de retraite des retraités, les dépenses de santé. Et ensuite, effectivement, il y a un certain nombre de dépenses pour les rémunérations des salariés, mais qui sont bien inférieures mais qui sont relativement importants, puisque il y a des salariés dans les hôpitaux publics, dans les écoles, dans les administrations aussi, mais c'est pas
des services publics, voilà, et qui des services publics qui doivent fonctionner.
Exactement, oui. Et d'ailleurs, juste pour rebondir sur ça, ce qu'avait dit Pierre Boyer au début sur le lien entre le taux de prélèvement obligatoire et la satisfaction, un des vecteurs de ce lien, c'est bien les services publics qui peuvent être financés par ces taux de prélèvement obligatoire importants. Ça, c'est un point qui est important, et c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est-à-dire que c'est-à-dire que la satisfaction qui apparaît comme corrélée au taux de prélèvement obligatoire, c'est pas le plaisir direct de payer des impôts, mais c'est la satisfaction et la capacité à vivre mieux qui est permise par les services publics qui, eux, sont financés par des impôts plus importants.
Pierre Boyer, justement, vous vouliez réagir.
Oui, deux réactions par rapport à ça. Déjà, le premier point de Sylvie, qui est vraiment le lien entre l'utilisation de l'argent public et le consentement à l'impôt, et c'est quelque chose qu'on voit qui est très fort. C'est d'ailleurs le déterminant le plus important quand on essaye de comprendre pourquoi les gens sont satisfaits ou pas satisfaits de payer des impôts et cotisations sociales. Ce lien-là, c'est le plus important. Et un deuxième point peut-être aussi, c'est quand on pose des questions vraiment directement sur, en expliquant combien on dépense pour un service public en défense, en justice, en police, en éducation, et ensuite quand on demande aux Français s'ils veulent baisser ce qui est donné à ce service public en échange, en contrepartie d'une baisse d'impôts ou de cotisations sociales, en fait, on a très peu de soutien pour ce genre de mesures.
Mais alors j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, puisque Gabriel Attal l'année dernière avait lancé son opération En avoir pour mes impôts, il y avait même un site internet dédié. Est-ce qu'on les a, les résultats de cette consultation? Elle s'est perdue en cours de route. On a une idée de ce que c'est devenu? Il devait même y avoir des réunions publiques dans les centres des finances publiques. Je sais pas, Anne Guyot-Velk, vous avez des infos là-dessus, vous?
Voilà, c'est effectivement ça faisait partie d'un plan de communication de Gabriel Attal pour soi-disant faire comprendre et le consentement à l'impôt, le rôle et la place. Mais il y a eu effectivement un sondage et on n'a pas eu les résultats de ce sondage et il y a eu très peu de réunions dans les services comme ça avait été annoncé. Donc là, on a eu un plan de communication, mais pas d'analyse pour le moment en retour, donc peut-être que
Pierre Boyer, prochainement. Vous avez des infos là-dessus ?
Déjà, il y a sur le site internet, ils avaient publié quelques résultats, en particulier celui que vous avez mentionné sur le fait que payer ses impôts est un acte citoyen pour 80% des Français. C'était ce qui était aussi retrouvé dans cette enquête sur internet. Mais on voit bien qu'il y a une intuition ici politique de dire les contreparties. Il faut vraiment travailler plus sur ce lien-là. Le fait que Sylvie s'interroge sur à quoi servent mes impôts, ça montre bien qu'on a besoin de mieux comprendre, de s'approprier à quoi sont utilisés ces impôts pour les consentir mieux.
Agnès, c'est dans les Côtes d'Armor. Bonsoir Agnès.
Oui, bonsoir.
Merci.
Voilà, je voulais te parler, justement, on parle d'impôts sur le revenu, mais il y a les impôts indirects, dont la TVA, et donc c'est l'impôt, à mon avis, le plus injuste, parce que quand on augmente d'un point ou deux de TVA, tout le monde le paye, y compris les plus modestes, qui sont soit juste en dessous du revenu médian, ou même en dessous du SMIC, et que ça a une répercussion beaucoup plus forte pour eux que pour quelqu'un qui gagne très bien sa vie. Et donc, quand on dit... Moi, je voulais dire aussi, comme le jeune homme, je suis très contente de payer des impôts, je trouve ça normal que de contribuer au pays, aux infrastructures, aux services publics, mais c'est vrai que la TVA, les impôts indirects, on n'en parle jamais, alors que même les pauvres payent la TVA.
Merci beaucoup Agnès pour cette intervention. Je vais passer la parole à Clément Carbonnier. La TVA, un impôt très important, en volume en tout cas.
Oui, tout à fait. C'est un impôt qui est nettement supérieur à l'impôt sur le revenu en termes de recettes, par exemple. Alors, le point, c'est qu'effectivement, il est peu ou pas du tout redistributif en lui-même. Malgré tout, il faut pas forcément s'arrêter à ça. C'est-à-dire qu'effectivement, si on fait une réforme où on baisse l'impôt sur le revenu et on augmente la TVA, on va baisser la redistribution. Maintenant, l'impôt a pas comme but uniquement de redistribuer directement à travers le mode de prélèvement, il a aussi comme but de financer des services publics, et en fait les services publics eux-mêmes sont très redistributifs d'une certaine manière parce que ils bénéficient aussi à tout le monde. Et d'ailleurs, il y a une étude récente de l'INSEE qui a dit que si on regarde la redistribution en regardant non seulement ce qui est fait en termes de prestations et d'impôts, mais aussi en nature, en services publics, en fait une très grande part de la redistribution passe par les services publics. Et donc, derrière, il faut bien voir que la TVA, certes, en lui-même ne redistribue pas, mais la TVA est quand même un impôt qui permet de prélever beaucoup de ressources et donc de financer de la redistribution à travers les services publics. Et quand on fait des comparaisons internationales, on s'aperçoit que la majeure partie des différences en termes de redistribution entre les pays ne passe pas par la progressivité des impôts, mais plus par le volume, c'est-à-dire est-ce qu'on est capable de prélever plus d'impôts pour financer plus de services publics, et c'est ces pays-là qui sont pas forcément plus progressifs, qui n'ont pas forcément un impôt sur le revenu plus important ou plus progressif, mais qui prélèvent plus, potentiellement par de la TVA, par des impôts moins progressifs, et qui derrière peuvent redistribuer plus à travers les services publics. Donc oui, c'est vrai que la TVA est moins redistributive en elle-même, mais elle permet potentiellement de financer de la redistribution à travers les services publics.
C'est d'ailleurs pour ça, Pierre Boyer, qu'on n'y touche pas trop.
Exactement. Donc, pour continuer sur ce point-là de Clément Carbonnier, c'est vrai qu'une première remarque, c'est que dans les pays scandinaves, les pays nordiques dont on a parlé, c'est des pays dans lesquels les taux de TVA sont très élevés. Et donc, justement, parce qu'ils financent autre chose. Et aussi pour se dire, quand on fait face à une crise énergétique, est-ce que la TVA peut être un bon instrument plutôt que le SIAC énergie? Et il y avait une note du Conseil des prélèvements obligatoires qui montrait qu'en fait, c'était pas le cas, en fait. Une mesure ciblée était beaucoup plus efficace pour épargner les plus modestes plutôt que de faire des baisses de TVA qui bénéficient à tout le monde.
Nicolas a appelé le Standard de France Inter. Bonsoir Nicolas.
Oui, bonsoir.
Je ne sais pas d'où vous appelez, mais c'est pas bien grave.
J'appelle à côté de Villers-Cotterêts, donc à côté de la cité de la langue française qui a été inaugurée il y a très peu de temps par notre président.
Et de la francophonie. On vous écoute,
exactement.
Nicolas.
Bonsoir, je voulais faire une remarque. Moi, je suis assez fier et heureux, on peut dire, de payer de l'impôt. Pourquoi ? Parce que j'ai vécu un petit peu à l'étranger. J'ai vu l'Angleterre avec des routes assez délabrées et puis très peu d'impôts, très peu de prélèvements. Mais j'étais déjà sur le prélèvement à la source à l'époque, dans les années 90. J'ai été aussi en Argentine, en Australie. Et en Argentine, c'est encore quelque chose de complètement différent. Moi, je suis assez content. J'ai un bon niveau de salaire, donc je suis assez content du prélèvement. Oui, on a une tendance à se plaindre quand même assez fortement en France. Et puis, je pense sur l'efficacité, effectivement, et la répartition de l'impôt. Mais globalement, je trouve que le rendu de ce qu'on a par rapport à l'impôt, il est quand même, je trouve, très positif et plutôt positif. Donc, voilà plutôt le côté positif de tout ça, moi. Et je trouve que c'est important qu'on ça en tête, pas forcément tout le temps en se comparant, mais en voyant ce qu'on en a, on a quand même des belles routes, on a quand même des belles infrastructures. Oui, on aimerait que ça fonctionne mieux, oui, on aimerait que ça aille beaucoup plus haut, beaucoup plus vite, beaucoup plus fort, mais bon, voilà, il faut travailler là-dessus plus que de se dire non, il ne faut pas d'impôts, à mon avis.
Merci beaucoup, Nicolas, pour cette intervention. Comment réagit la secrétaire générale du syndicat Solidaires Finances Publiques en entendant ça, Anne Guillauvel, que ça vous réjouit?
Alors, oui, ben moi, un contribuable euro, on va dire que c'est un citoyen euro, on va dire, on pourrait le dire comme ça. Je pense que la question, alors la précédente auditrice parlait de l'injustice de la TVA parce que son mode de fonctionnement est proportionnel et pas progressif, et effectivement, quel que soit son revenu, on paye le même montant de TVA quand on fait l'achat de sa baguette ou autre, etc. Donc la question de la contrepartie des impôts, qui soient directs ou indirects, ou qui soient progressifs ou proportionnels, ça aussi c'est des questions d'équilibre. Comment aujourd'hui on construit un budget, et je pense que le gouvernement doit y réfléchir, c'est que il doit à la fois dans la construction de son budget intégrer des recettes. Alors effectivement la TVA par exemple est une recette, on va dire, sûre entre guillemets, puisqu'elle rentre de façon plus rapide, avec une exception près, c'est qu'elle représente aujourd'hui 38% des recettes budgétaires. Mais il faut savoir aussi que la TVA est un impôt qui est fraudé et qui est avec des montants assez conséquents. Donc voilà. Après, la question de la déclaration de l'impôt sur revenu et sa progressivité, aujourd'hui, je pense qu'il y a des mesures qui doivent être prises pour rendre le système fiscal plus juste, moins complexe et plus stable aussi, pour qu'il y ait une visibilité aussi pour tous les acteurs économiques en termes de fiscalité.
À ce sujet, il y a Sophie qui nous dit via WhatsApp, pourquoi l'impôt n'est pas simplement un pourcentage de notre salaire ? Ce serait équitable, c'est ce qu'elle écrit, je trouve, pour tout le monde, les plus pauvres comme les plus riches, plutôt que d'avoir des tranches, un pourcentage. Pierre Boyer, qu'est-ce qu'on peut répondre à Sophie ?
Alors peut-être deux réactions. La première sur le fait que l'impôt sur revenu est progressif, c'est-à-dire qu'on paye plus d'impôt sur revenu quand les revenus augmentent. Il y a une étude de l'Institut des politiques publiques qui montrait bien que c'était le cas en France. Et que jusqu'au tout haut de la distribution des revenus, où il y a un changement de composition des revenus. Et peut-être sur la proportionnalité, la question est vraiment celle que je mentionnais précédemment, sur le fait qu'il y a des gens qui vont penser qu'un critère de justice va être que tout le monde paye de l'impôt sur revenu. Et comme vous l'avez mentionné au début de l'émission, il n'y a que la moitié des foyers fiscaux qui payent l'impôt sur revenu. Et donc ça c'est vraiment ce conflit de justice. Et donc on le retrouve bien, une fraction de la population qui pense que plus de justice, ça serait aussi une augmentation d'impôts pour les plus modestes, et pas seulement une augmentation d'impôts pour les plus aisés.
Y compris une petite contribution, même symbolique. Clément Carbonnier, vous souhaitiez réagir ?
Oui, alors d'abord la contribution, elle est pas que symbolique. C'est-à-dire que si on rentre la CSG, qui est un impôt sur le revenu en comptabilité, c'est 8% dès le premier euro, ce qui est pas totalement symbolique. Non, juste je voulais revenir sur ce point-là, sur cette question, et notamment c'est une question qui a pas mal agité les débats intellectuels au 19e siècle, savoir si la justice du prélèvement, c'était un impôt proportionnel ou un impôt progressif. Et au 19e siècle, en fait, on lisait notamment les articles de la Déclaration des droits de l'homme en disant c'est proportionnel aux facultés contributives. Et donc, les facultés contributives, c'est le revenu. Et donc, ça doit être proportionnel. Et puis, en fait, la plupart des pays sont passés quand même à une imposition progressive, avec l'idée que les facultés contributives, en fait, elles croissent en proportion du revenu avec le revenu. C'est-à-dire que quand on gagne très peu, en fait, ben, tout le revenu qu'on gagne est absolument nécessaire pour vivre, et donc finalement la capacité de contribution, elle est relativement faible dessus. Alors, on contribue quand même, 8% de CSG, plus la TVA, plus tout ça, mais voilà, avec ce taux-là. Et quand on gagne des revenus plus importants, ben, finalement sur les tranches supérieures, et c'est cette idée de tranche, c'est que le revenu qui dépasse 25 000 euros pour une certaine tranche, 60 000 pour une autre tranche, c'est un revenu dont, d'une certaine manière, on arrive à se passer avec moins de peine, et donc c'est un revenu qui permet une capacité contributive plus importante, et c'est de là que vient cette idée de progressivité, et donc cette idée que la contribution juste, elle est plutôt progressive plutôt que simplement proportionnelle.
Jean-Claude, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous
bonsoir,
nous appelez de Charente, Jean-Claude.
Oui, tout à fait. Et donc, j'entends l'émission depuis le début, et je suis quand même un peu surpris qu'il n'y ait pas une forme quand même d'opposition à ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que on ne cesse, des membres du gouvernement, je suis un élu local, les membres du gouvernement ne cessent de faire passer par les ondes qu'ils ne vont pas augmenter les impôts. Et, ah bon, ils n'augmentent pas les impôts? Bien sûr, ils confient aux collectivités territoriales d'augmenter les impôts. Là, par exemple, nous sommes obligés d'augmenter la taxe foncière, le foncier bâti, le foncier non bâti, parce que nous n'y arrivons plus. La suppression de la taxe d'habitation, elle est compensée comment ? L'État ne compense plus la taxe d'habitation comme il s'y était engagé. Donc, l'État vit au-dessus de ses moyens, la France vit au-dessus de ses moyens, et elle ne peut plus faire face financièrement à la situation que nous vivons, là, dans nos services publics, dans les hôpitaux, un petit peu partout. Et donc, on prend sur les classes moyennes, on écrase les classes moyennes, et effectivement, les salaires sont trop bas dans notre pays. Quand on voit Michelin qui décide de ne plus tenir compte du salaire minimum et qui souhaite l'augmenter, parce qu'effectivement, les gens n'y arrivent pas. Tous les mois, quand nous recevons les gens dans le centre communal d'action sociale, comment ils font pour payer leur gaz, leur électricité, leur téléphone, faire face aux dépenses des enfants? Souvent, il y a beaucoup de familles monoparentales maintenant, également, qui sont confrontées. Alors, certains se gossent, je suis content de payer des impôts. Oui, bien sûr, quand on travaille, on paie de l'impôt. Mais il faut savoir que nous payons de l'impôt sur tout. Nous sommes taxés sur tout. Tout ce que nous faisons toute la journée, nous sommes taxés. Quand nous achetons, la TVA, ça a été cité, quand nous achetons, mais les collectivités territoriales, nous n'y arrivons plus. Le département, la région, les communes sont quasiment en faillite. Alors qu'est-ce qui se passe? Les élus, moi j'ai 47 ans de mandat, donc je ne suis pas un élu de l'année. Donc je vois mes collègues qui démissionnent. Les maires démissionnent, les conseillers démissionnent parce qu'ils voient qu'ils peuvent rien faire petit à petit. Alors l'impôt, c'est très important, mais la France vit au-dessus de ses revenus. Il va falloir qu'on l'admette un peu. Alors nous avons un gouvernement de bavards, voilà, ils bavardent à longueur de journée, mais la réalité sur le terrain, nous, on bavarde pas, on agit. L'action est très difficile.
Merci beaucoup Jean-Claude pour c'est un petit coup de gueule. Hein, j'entends ce que vous dites, mais j'ai quand même une interrogation sur la compensation après la suppression d'un certain nombre d'impôts locaux. Théoriquement, ça devait être compensé, ça ne l'est pas. Pierre Boyer, on entend ce que nous dit Jean-Claude, 47 ans de mandat, élu local.
Donc il y a un engagement du gouvernement de compenser la suppression de la taxe d'habitation. Et d'ailleurs, on le voit parce que cette compensation est faite par une affectation des recettes de TVA. Et donc on voit aujourd'hui, en 2021 par rapport en 2015, une part significative de TVA qui va vers les collectivités territoriales. Maintenant, par rapport aux difficultés qui sont d'un élu local de réagir à ses concitoyens avec les augmentations de prix qu'il y a eu, on entend effectivement qu'il y a des difficultés pour boucler ces budgets.
En tout cas, on entendait, d'après ce que nous disait Jean-Claude, qu'il faudrait peut-être qu'il y ait un débat sur ces sujets-là. Clément Carbonnier, le fait qu'aujourd'hui il y ait des suppressions de crédits et que tout ça passe sans passer par la loi. Pas de débat budgétaire, est-ce que ça c'est normal?
Je suis pas juriste. Par contre, je voulais répondre sur la question. Effectivement, il y a la compensation de la taxe d'habitation, mais je pense qu'il faut regarder une trajectoire plus longue sur la question des finances publiques locales, parce que j'ai parlé tout à l'heure. Je disais, il y a les impôts nationaux pour l'État, il y a des impôts locaux pour les collectivités territoriales, et puis les cotisations sociales pour la sécurité sociale. Et puis, au fur et à mesure, en fait, l'État a baissé les recettes directes de sécurité sociale à travers des allègements de cotisations et les recettes des collectivités locales, et les a compensées, mais du coup par des dotations. Et en fait, ça limite le pouvoir, c'est-à-dire que la taxe d'habitation, c'est la dernière, enfin c'est pas la dernière en date, parce qu'il y a eu la suppression de la CVAE, donc la taxe locale sur les entreprises l'année dernière. Il y avait eu des réformes avant de la taxe professionnelle qui avait aussi diminué ces recettes-là. Et donc en fait, il y a eu une succession de baisses des impôts sur lesquels les collectivités territoriales ont un poids, et donc aujourd'hui il leur reste principalement en fait la taxe foncière, et donc derrière une grande partie de leur financement, c'est plus des impôts sur lesquels elles peuvent décider, j'ai besoin de dépenses de services publics, de rénover mes services publics localement, je vais augmenter mes impôts pour pouvoir les financer, puisque la majeure partie des ressources des collectivités territoriales sont des dotations de compensation, mais des compensations qui peuvent être datées de longtemps et qui sont pas forcément réévaluées en fonction des besoins. Et donc derrière, il faut bien voir que ce transfert-là, il est compensé au début, mais à long terme, ça donne le pouvoir sur l'État de décider des moyens de financement des collectivités territoriales.
D'où le désarroi de
Jean-Claude, des élus locaux qui ont plus la main sur leur budget.
Eh ben, écoutez, ça va faire partie des conclusions de cette émission. Je voudrais donner pour un dernier mot la parole à Anne Guyot-Welk. Un débat est absolument nécessaire, d'après vous, ou pas, sur ces questions? Et allez, vous avez 30 secondes pour me répondre.
Oui, le débat, il est nécessaire. Je veux dire, c'est des enjeux des finances publiques qu'on parle aujourd'hui. Donc, la question de la réduction de la dépense à tout prix, peut-être à un moment donné, ce gouvernement devra aussi s'interroger sur la légitimité de retrouver des recettes, parce que l'impôt, et que cet impôt, que ces recettes supplémentaires soient construites de façon juste et équitable pour toutes et tous, pour un service public et des actions publiques et des politiques publiques qui soient à la fois qui réduisent les inégalités, qu'elles soient territoriales ou sociales.
Merci beaucoup Anne Guyot-Welk. Pierre Boyer, si vous faites archi court, allez, 10 secondes.
Donc il y a un collègue du Conseil de prélèvement obligatoire qui dit que les impôts locaux, c'est un cadavre en voie de décomposition, et donc il va falloir y avoir une réflexion. En particulier, on voit bien qu'il y a énormément de confiance dans les acteurs locaux de la part des citoyens.
Voilà, merci à tous les trois d'avoir participé à ce téléphone sonne et à tous ceux qui nous ont appelés. Allez, je résiste pas, même si je déborde un peu, de vous citer. Marc à Marseille, par mail, bien sûr qu'il faut payer des impôts, ça permet de payer des profs, des policiers, des magistrats, des météorologues, des soldats, des sauveteurs en mer et une radio publique. Ce qui est discutable, c'est le niveau de l'utilisation qui est fait, pas le principe. Voilà, c'est terminé. Juste après les infos de 20h, Patricia Martin, l'heure philo. Ce sera après les petits bateaux de Camille Cronier avec cette question.
Bonjour, je m'appelle Noémie, j'ai 14 ans et j'aimerais savoir si on peut méditer sans le savoir. Merci.